Le tournant, évidemment, a été assez net. D'abord, du fait du passé du président, qui était un homme qui avait surtout connu l'Asie, et surtout de la situation des relations entre ces deux entités de part et d'autre de l'Atlantique. D'un côté, pour les États-Unis, comme l'avait dit M. Védrine fort bien, l'Europe n'était ni une priorité, ni un problème, ni une solution au problème des États-Unis. De l'autre, en même temps, les relations économiques étaient très fortes. Il faut voir que les relations commerciales sont plus importantes entre les États-Unis et l'UE qu'elles ne le sont entre les États-Unis et la Chine. Et cela est encore plus net au niveau de l'investissement. Les investissements américains en Europe sont à peu près 3 fois plus importants que les investissements américains en Asie. Quant aux investissements européens aux États-Unis, ils sont 8 fois plus importants que leurs investissements en Asie. Donc il y avait au départ, du moins, une sorte de hiatus entre le relatif des intérêts sur le plan géopolitique, car l'Europe ne semblait plus une zone de problème cet aspect, et évidemment l'intérêt qui restait très fort en matière économique. Cela a changé, non pas que la relation économique se soit le moins du monde dégradée, mais parce que désormais, pour les États-Unis, l'Europe est revenue malgré tout au rang de problème.
Et alors, cette Europe qui connaît des crises, notamment, je pense, au Brexit, à la zone euro, à la crise migratoire, évidemment, comment est-ce que finalement cette administration Obama a pesé sur l'Europe en crise ?
Oui, je crois qu'il faut voir que la première demande de l'administration Obama était que l'Europe prenne davantage en main ses problèmes et en particulier consacre plus d'argent à sa défense. Il y a quand même eu l'affaire, effectivement, de la crise de l'euro. Et là, les Américains se sont inquiétés parce que l'Europe est quand même leur partenaire le plus sûr, très proche économiquement. Ils ne tiennent pas à voir une dépression en Europe ricochait un petit peu comme ils avaient eu l'impression dans les années 30 qu'après la crise aux États-Unis, l'économie américaine était repartie et puis elle avait été victime du retour de bâton qu'avait constitué le développement de la crise en Europe. Là, je crois que c'est le premier point. Les Américains ont, je crois, fait pression sur les Allemands pour qu'ils trouvent une solution permettant d'atténuer les problèmes de l'euro.
Il y a d'autres dossiers où l'Europe a été source d'inquiétude et même de déception pour les Américains.
Il y a eu l'affaire libyenne, n'est-ce pas, où les Européens ont d'ailleurs attiré les Américains, en tout cas un Obama qui au départ était réticent, et cela a permis à une nation américaine de chercher à dégager une nouvelle relation avec l'Europe. Vous rappelez la fameuse formule « leading from behind », cette idée que les États-Unis allaient gérer au fond le monde par dévolution en confiant à leurs alliés une partie de la responsabilité. Ça a relativement bien marché sur le moment, mais ça a été une très grande déception du côté américain, dans la mesure où il n'y a pas eu, à ses yeux, le suivi qui s'imposait de la part des Européens. Et il a tendance chez Obama, on l'a vu dans une récente interview ce printemps à Via Atlantique, à considérer que les Européens sont volontiers des free riders, des passagers clandestins.
Et cette relation a continué à se détériorer par la suite dans le mandat d'Obama ?
Si vous voulez, ça n'a été que le début de la transformation de la relation, puisqu'après la Libye, on a eu toutes sortes de problèmes. Il y a eu l'affaire Snowden, qui évidemment a semé un petit peu la consternation, voire la colère en Europe, en particulier en Allemagne, et a un petit peu nui aux relations entre les deux côtés de l'Atlantique. Et puis il y a eu deux affaires très importantes. Je pense que la première, ça a été le renoncement d'Obama à intervenir militairement directement en Syrie, à frappant le régime Assad, décision dont il maintient la justesse et la légitimité, mais qui a donné à l'Europe le sentiment d'une perte de crédibilité du leadership américain. Et puis surtout, il y a eu évidemment la crise aux portes de l'Europe, c'est-à-dire en Ukraine, l'annexion de la Crimée Et de ce point de vue, évidemment, Obama, qui avait commencé par désengager 10 000 hommes d'Europe, s'est trouvé contraint de redéployer des hommes sur le terrain européen.
Mais alors, quels sont les points de convergence entre l'administration Obama et l'Europe ?
Il y a la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le réchauffement climatique, la volonté commune d'avoir une économie mondiale saine, et évidemment le sentiment qu'il faut, d'une certaine façon, trouver un modus vivendi qui soit favorable avec la Russie. Que ce soit par le biais, évidemment, de l'endiguement ou d'un retour symbolique à l'endiguement, comme certaines des initiatives militaires de l'OTAN récentes veulent en donner l'impression, ou la négociation, ce qui pourrait être d'ailleurs le cas avec l'administration Trump.
Alors justement, parlons de Donald Trump. Quel héritage lui laisse de Barack Obama de l'Europe ?
Une Europe confrontée à des crises et surtout une Europe qui s'inquiète évidemment de l'arrivée d'un homme qui a clamé haut et fort que l'OTAN était obsolète, même s'il semble vouloir revenir. Et il avait même dit que si les alliés ne payaient pas leur dû à l'Alliance, après tout, ils ne se sentiraient pas obligés de voler à leur secours s'ils étaient l'objet d'une agression. Mais ça, c'est quelque chose qui est fort dans l'opinion américaine. On l'avait trouvé dans les années 60 avec l'amendement Mansfield, il y a le sentiment que les Européens, au fond, ont la grande part du gâteau. Ils se consacrent à des dépenses, n'est-ce pas, de sécurité sociale, d'assurance maladie, etc., et laissent les Américains, avec une infrastructure qui est en train largement de donner des signes de faiblesse. Bref, qu'on a, du côté européen, avec un certain égoïsme, laisser les Américains payer pour la défense du vieux continent, alors même que celui-ci vit très confortablement et pourrait, sans trop de difficultés, c'est du moins le point de vue américain, faire beaucoup plus d'efforts.
Quel problème pourrait poser l'arrivée de Donald Trump pour l'Europe ?
Les vrais problèmes qui vont se poser, c'est sur le réchauffement climatique, où là, les positions sont totalement opposées. Les questions qui pourraient également être soulevées par l'arrivée de Trump, me semble-t-il, c'est la montée éventuelle du populisme que son succès aux États-Unis pourrait favoriser, mais de cela, on ne sait pas exactement ce qu'il faut penser. Ça peut aussi avoir l'effet inverse.
Et il y a aussi la question du traité du partenariat transatlantique.
Mais là, je crois que c'est une affaire entendue qui va dans le sens, sinon, des gouvernements, et encore, ça va dans le sens de pas mal de gouvernements et très largement de l'opinion européenne. Il semble que le fameux TTIP est plus que du plomb dans l'aile. Pour le moment, il est dans un état de coma prolongé pour plusieurs années au mieux, dans la mesure où Trump ne veut surtout plus de ses accords commerciaux. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on aura fatalement des mesures protectionnistes à l'endroit de l'Europe, parce que finalement, les importations qui viennent d'Europe ne sont pas les importations qui donnent l'impression au public américain de voler les emplois. Les salaires en Europe, les charges sociales sont élevées, ce qui inquiète beaucoup d'Américains et explique le mouvement contre les délocalisations et contre la mondialisation. C'est l'afflux depuis la fin des années 90 avec l'ALENA d'un côté, l'entrée de la Chine à l'OMC de l'autre, d'importations de produits manufacturés à provenance de pays où la main-d'œuvre est très bon marché et où la concurrence est donc cruelle et redoutable pour les salariés américains qui voient les usines fermées et les emplois supprimés.
Et est-ce que Donald Trump va poursuivre la stratégie de Barack Obama d'être tourné vers l'Asie plus que vers l'Europe ?
C'est une question à laquelle, je crois, les spécialistes n'ont pas de réponse. D'un autre côté, il faut bien voir qu'à terme, la relation essentielle pour les États-Unis va être avec l'Asie. Ça a déjà été le cas, c'était le problème pour l'Europe, du pivot vers l'Asie, proclamé haut et fort et par Mme Clinton et par Obama, et bien sûr avec la Chine. Au fond, vous avez la montée de l'ancien empire du milieu face à l'actuel empire du milieu que représentent les États-Unis. Et on sait que d'un côté, l'élection de Trump a été une source de réjouissance en Asie parce que l'imprévisibilité qui est en lui est un facteur qui déconcerte les alliés des États-Unis dans la région et donc une chance pour la Chine de marquer des points et de se rapprocher d'un certain nombre de pays qui jusqu'ici étaient proches de Washington. En même temps, pour la Chine, l'arrivée de Trump est un sujet d'inquiétude parce qu'il a promis de mettre des barrières douanières pouvant aller jusqu'à 45% de droits contre les produits chinois à un moment où la Chine, malgré tout, a des problèmes économiques et tient à maintenir son niveau d'exportation.